Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 115e épisode de Torréfaction, le premier épisode de l'année 2020. On se retrouve comme toutes les semaines après une pause de 15 jours pour parler un peu d'actu, actu gaming, app culture, tech. On fait un peu le tri dans les news qui nous ont semblé intéressantes et on le fait avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour, facile, même bonsoir, même si vous nous écoutez le matin.
C'est vrai.
À pied.
Et bonne année.
Et bonne année. Je parle à tous nos amis parisiens qui ont l'habitude de nous écouter dans le métro et qui là sont en train de dire... Là, on aimerait bien être dans le métro, mais c'est compliqué. Donc, on va pas parler de ça. Hein. Nous, on va parler de trucs légers qui sont censés nous détendre et nous donner le sourire après des journées un peu compliquées ou avant des journées un peu compliquées. Je viens moi-même de faire des recherches de fuites, si vous voulez tout savoir. Et je ne le conseille à personne, c'est nul. Les fuites dans des immeubles pseudo-neufs, c'est toujours un bonheur. Voilà, je vous conseille, c'est nul sur 10. Première note du podcast.
Allez, on va passer sur des choses qui sont un peu plus rigolotes. On va parler gaming avec des news du côté de Monster Hunter World.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de lui.
C'est vrai.
Et parce que on s'ennuyait un petit peu, nous, sur PC, vu que la version Iceborne, qui est disponible depuis la rentrée de septembre sur console, et elle mettait un petit peu plus longtemps, comme d'habitude, à arriver chez nous. Mais ça y est, nous avons la version PC qui est là. Je vais essayer de vous la faire très simple, parce que Monster Hunter World, on en a parlé en long et en large et en travers. C'est des gros monstres que vous allez chasser avec une sélection d'armes qui est plus pléthorique, hein, ça, vous avez vraiment tous les styles d'armes. Si vous êtes un gros bourrin, que vous aimez les haches, il y a ça dans le jeu. Si vous êtes un gros bourrin qui aime les haches, qui se transforme en épée, qui se transforme en truc bizarre, en gun, en lance, il y a aussi. Si vous aimez les flingues, il y a. Si vous aimez les gros flingues, ou plutôt option mortier, c'est aussi possible. Enfin bref, Monster Hunter, c'est vraiment... Ouais, on te fait plaisir. On est là pour te faire varier les styles de jeu. On est là pour te faire casser du gros monstre. Si dans les MMO, ce que vous aimez, c'est les combats de boss, c'est uniquement ça. Si vous avez jamais essayé Monster Hunter, c'est ce que j'avais dit à l'époque de la sortie de la version World. C'est le jeu qu'il faut tester. Et cette version Iceborne rajoute énormément de contenu, plein de petites modifications au niveau du rendu graphique, qui est encore plus beau qu'avant. Plein de modifications au niveau des ce qu'on appelle les améliorations de vie. En français, j'aime pas tellement, mais je préfère, en anglais ça sonne mieux, hein, quality of life. C'est des petites choses dans l'interface qui ont été modifiées pour vraiment que ça soit plus agréable à jouer. Je vais pas trop citer de trucs parce que ça va pas tellement parler aux gens qui n'ont jamais touché au jeu, mais même quand on se balade avec son arme d'habitude pour envoyer des flares, t'as un système de flares pour éblouir par exemple les monstres, il fallait ranger son arme pour pouvoir lancer le truc, enfin tu vois, c'était un peu clunky. Là maintenant c'est un peu plus facile. Voilà, ils ont pensé à tout ça, ils ont changé plein de trucs. Ça va jusqu'à gérer la taille de l'affichage parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y a des gens qui ont des écrans de bourgeois et qui avaient du mal, même en plissant les yeux, à lire ce qu'il y avait marqué. Donc ils se sont dit non, on va vous laisser augmenter la taille des polices correctement maintenant. Merci messieurs. Enfin voilà, parce que c'est quand même des développeurs console avant tout et le portage PC, c'est un petit peu compliqué. Les textures HD fonctionnent parfaitement. Donc il y avait un pack qui était sorti, et puis pas un petit pack, hein, genre le pack de 40 gigas rajouté sur Steam. Donc tout ça est dispo. Amusez-vous, les nouveaux monstres sont rigolos, il y a évidemment toute une campagne scénarisée qui vous emmène dans un nouveau territoire, ambiance on gèle les fesses, donc c'est un peu ambiance d'époque, là on est en plein dedans.
Tout à fait, ouais.
et vous allez voir que bon bah c'est, on change pas une équipe qui gagne, ils ont fait une scénarisation qui est assez intéressante, même si c'est vraiment une sorte de tuto géant avant d'emmener vos potes aller buter des vrais gros monstres pas contents et pour aller fabriquer les armures que tout le monde voulait. Voilà, donc c'est du Monster Hunter. Si vous aimiez pas avant, vous aimerez toujours pas. Et puis si vous étiez déjà fan comme moi mais que vous aviez fait une pause parce que ça tournait un petit peu en rond, c'est le moment de dépoussiérer vos paddles.
Allez, on part du côté de la nostalgie avec un petit sujet sur une émulation.
Ouais, j'ai fait ça sur un coup de tête, j'avoue, sur Geekzone cette semaine.
Manifestement, tu as fait plaisir à plein de gens.
Voilà, mais c'est un truc rigolo parce que très méconnu chez nous. Donc j'ai parlé d'émulation de PC 98. Alors les PC 98, c'est même pas le nom officiel, hein, la vraie dénomination, c'est PC 9800 série. Series. Et c'est une gamme de machines qui est sortie dans les années 80 au Japon pour concurrencer l'hégémonie américaine qui allait débouler. Et les mecs se sont dit, non, mais déjà, vos PC MS-DOS, c'est génial, mais en fait, vos claviers gèrent même pas le japonais, donc bah nous, on peut pas travailler avec. Mmh. Et le MS-DOS de Microsoft bah, ne gérait pas non plus ce genre de trucs. Donc, leurs bécanes sont tout de suite arrivées en fait en 16-32 bits, alors que nous, on avait nos processeurs 8 bits à l'époque. Donc, il y a une... évidemment, c'était des machines pour travailler, parce que le travail, c'est important, surtout au Japon, surtout à l'époque. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu mets pas des milliers, voire des millions de machines dans la nature sans que bah, quelques personnes se disent hey, « Eh, si on faisait des jeux vidéo dessus mmh. ?» Alors, pour vous donner une idée, hein, c'est 18 millions d'unités PC98 qui ont été distribuées, a priori. Donc, c'est un petit peu lourd. Ça a été vendu de 1982 jusque dans les années 2000 pour les dernières itérations. Donc, c'est une série qui a duré très, très, très longtemps. Next était vraiment le patron du game au Japon sur l'histoire. Et du coup, il y a des gens qui sont passionnés de cette ludothèque japonaise absolument hallucinante qui est... Enfin, je ne sais même pas s'il existe une collection exhaustive, mais dans la news que j'ai fait sur Geekzone, je vous link à un site d'un passionné qui alimente un compte Twitter avec des captures d'écran toutes les 4 heures, etc., des vieux jeux de cette plateforme qui explique comment émuler ça de différentes manières et surtout comment émuler et en profiter quand on ne parle pas japonais. Puisque forcément c'est des trucs qui étaient vraiment que là-bas, donc c'est très très frustrant quand on se dit j'aimerais bien jouer à ce truc, ça a l'air vraiment différent, rigolo, etc. Et puis tu fais ah oui mais moi je parle pas japonais, je suis un peu car donc voilà, c'est la frustration de ma vie. Et en revanche, eh bien maintenant il y a des fans qui ont fait des traductions sur certains titres emblématiques. Et puis toi, tu avais fait un papier sur la traduction automatique disponible dans RetroArch et du coup vous pouvez utiliser ça sur le site web. Alors il explique bien que RetroArch c'est pas le plus facile à mettre en œuvre en temps, du côté émulation, mais c'est un des plus puissants et c'est celui justement qui vous permettra de bénéficier du service d'intelligence artificielle. Oui, j'ai lâché le mot. Donc voilà, vous pourrez, je sais pas ce que ça donne hein, techniquement, je sais pas si c'est vraiment très efficace ou fidèle.
Bon, disons que ça permet de comprendre la base de ce qu'on essaie de te raconter en japonais, quoi.
Ça sera mieux que du japonais quand on parle pas du tout japonais, hein. C'est très très clair. Donc voilà, donc cette petite news. Et puis c'est une émulation qui est très peu connue, donc si vous cherchez un truc un petit peu nouveau pour perdre du temps, moi vous savez que vous pouvez toujours compter sur Geekzone pour aller flinguer vos heures. Il n'y a pas de problème, on est présent.
Et on reste dans le rétro gaming avec des news du côté de la mini Mega Drive, hein, c'est comme ça qu'on dit?
Ouais, la Mega Drive mini même en fait, hein, tout bêtement. Oui, dans le bon ordre, la Mega Drive mini, c'était la petite console mini, on l'avait vannée parce que c'est pas la première qui est sortie, et en fait c'est une des plus intéressantes. Tu me diras, la PlayStation mini qui est une sombre bouse a été aussi détournée de son objectif premier assez rapidement, c'est à savoir que les mecs en fait changent le logiciel qui est à l'intérieur pour aller mettre leur propre bidule qui permet de dépasser allègrement la capacité de base avec les 20, 30, 40 jeux qui sont livrés en standard pour pouvoir mettre sa propre ludothèque et gérer ça tout seul comme un grand. Donc j'ai fait une autre news qui est linkée dans le billet qui accompagne ce podcast qui s'appelle Project Lunar, enfin la news parle de Project Lunar. Project Lunar, c'est un truc qui remplace carrément l'OS, le système qui est à l'intérieur de la Mega Drive Mini. Et à partir de ça, vous allez même pouvoir brancher la bestiole sur votre PC avec un soft qui va vous permettre de gérer ce que vous allez mettre dans votre Mega Drive. Alors oui, on peut faire la même chose avec un Raspberry Pi et puis les émulateurs du marché, etc. Mais si vous l'avez déjà sous la main, c'est rigolo. L'interface de base est vraiment sympa et réussie. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. Il y a déjà des gens de la zone qui ont fait la modif qui sont très contents. Et puis vu les prix en promo des Mega Drive Mini, ça peut être un cadeau rigolo que vous pouvez agrémenter à votre sauce.
Allez, on passe du côté des apps avec une nouvelle version de notre browser chouchou Firefox.
Ouais, qui nous a fait une petite frayeur.
Ouais, c'est vrai.
Hein, voilà, donc nous on se tue à dire oui, il faut utiliser Firefox, c'est vachement bien. Donc qu'on s'en soit très très clair, c'est très bien. Donc Firefox 72 est sorti, ils ont rajouté plein de petits trucs, dont le Picture in Picture qui permet d'avoir genre YouTube dans un coin de son écran pendant qu'on continue de bosser sur une autre page web. Pour les gens qui ont des écrans un peu trop petits, qui n'ont pas une surface d'affichage de bourgeois, et c'est assez intéressant. C'est pas les premiers à le faire, mais ça manquait dans leur arsenal. Ils l'ont enfin aussi. En revanche, ils ont effectivement eu un bug, une faille de sécurité dans le moteur JavaScript, en disant plus tôt, qui a été corrigée tout de suite. Donc vérifiez bien que vous êtes en 72.1 ou 0.1, j'ai un doute, pour éviter tout problème, parce qu'a priori, il y avait des petits hackers qui étaient bien en avance sur la faille D0, comme on dit, et qui auraient déjà tenté de l'exploiter. Donc voilà, mais sinon, pour le reste, eh ben, ça reste mon navigateur favori. Je l'utilise même maintenant à 90%, même sur Mac, c'est vous dire, et il y a vraiment de quoi faire, et je ne vais pas revenir sur... je vais pas faire de l'anti-Google à chaque podcast, ça va être... comment dirais-je, redondant et chiant à écouter. Donc,
mais vrai. Mais,
voilà, mais bon, voilà, vous prenez vos décisions, mais il faudra les assumer dans quelques années, d'accord ? Ok ? Voilà, c'est tout.
Et on passe sur mobile avec une application pour lire ses courriers électroniques.
Oh, c'est mignon quand tu dis ça comme oui. Ça, j'aime bien. Oui, tu courriers électroniques, à l'ancienne, vous vous rappelez les emails ? C'est le truc, ah, c'est génial parce que j'ai vu tellement de startups se lancer en disant, voilà, l'email, ça va mourir, car enfin, la communication va être révolutionnée, tu vois, Slack les premiers. Hein. Mm-hmm. Et en fait, on n'a jamais fait autant d'emails que de nos jours, donc je n'en peux plus. Et pour le boulot, il a fallu que j'utilise un téléphone Android. En ce moment, je suis sur les deux plateformes à 110% plus que jamais. Et dans les clients qui soient, entre guillemets, où on soit sûr qu'ils ne se connectent pas sur des serveurs tiers pour gérer les notifications, etc., etc., pour vous faire des services avancés, tu vois, tu as plein de clients mail qui te disent « je vais envoyer ton mail en décalé, par exemple », tu vois. Mm. Tout ça passe par des serveurs tiers. Et quand tu es dans certains domaines avec certains clients, ce n'est pas possible. Il faut vraiment un truc qui fasse de l'IMAP, rien que de l'IMAP, qui se connecte à un serveur et qui n'aille pas discuter ailleurs. Et donc, j'ai découvert un client qui, lui, on sait qu'il ne fait que ça pour plein de raisons, parce que déjà, c'est comme ça qu'il se présente, et ensuite, parce qu'il est open source, donc ça s'appelle Fair Email, jeu de mots, un peu pourri le jeu de mots, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Fair Email, c'est un client donc Android gratuit, open source, pour gérer ses mails. Alors, il ne gagnera pas de grand prix de beauté, mais par rapport au classique du genre qui s'appelle Canine, c'est pas ça va, sauf que Canine est en train de refaire son interface, donc ça risque, la guerre risque de repartir dans l'autre sens après, donc méfions-nous, mais en tout cas ça fonctionne, c'est vraiment bien fichu parce que ça fait toutes les fonctionnalités de base. À la limite, il a un défaut, c'est qu'il a énormément d'options qui sont pas forcément classés d'une de la manière la plus logique du monde, surtout quand on installe le soft pour la première fois. Il y a vraiment beaucoup de paramètres possibles. Et il est gratuit, certes, mais comme la personne qui l'a développé, qui s'appelle Marcel Bockhorst, si je ne dis pas de bêtises, il a quand même beaucoup travaillé. Et du coup, il propose une option premium, en fait. C'est vraiment pas cher, c'est 6,50€, oui, comme ça. Voilà, et c'est tu l'achètes qu'une fois, hein. C'est pas un système d'abonnement, etc., etc. Par rapport au marché, il est extrêmement bien positionné au niveau tarif. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce que ça donne. C'est pas le plus beau de la terre, il fonctionne extrêmement bien. Il a trouvé une bonne ruse pour gérer les notifications de manière fiable sur Android, ce qui est un problème récurrent si vous allez voir les concurrents genre Nine, genre Blue Mail. Il y en a pas mal des clients mail au final qui sont d'un rapport qualité-prix assez variable. Vous allez voir que souvent il y a des gens qui râlent sur les notifications qui marchent plus, etc., et qui trouvent pas pourquoi. Alors on sait pourquoi, et surtout avec les modifications des dernières versions d'Android pour essayer d'imiter la consommation d'énergie des applications en background. Le Marcel en question a trouvé une petite ruse. C'est pour ça que vous avez un truc qui tourne en permanence qui n'est pas votre client mail, mais un autre truc qui tourne en permanence pour aller checker vos mails, mais de manière extrêmement maligne pour pas bouffer votre batterie à la vitesse grand V. Je vous confirme, j'utilise, j'ai aucun problème. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'un truc fiable, un peu spartiate peut-être visuellement, mais qui fait le boulot, eh bien, je vous recommande Fair Email. Et puis, si vous êtes un codeur, vous pouvez même aller voir la gueule que ça au niveau du code pour savoir si ça fonctionne exactement comme vous voulez. On sait que nous avons des gens sur Geekzone qui sont un petit peu, comment dirais-je...
parano.
Oui, peut-être, allez, parano, d'accord.
Allez, on passe du côté de la culture. J'ai eu la chance ce matin d'aller voir Jojo Rabbit. Tu vois ce que c'est ou pas du tout?
Ouais, je me rappelle qu'il y a un mec avec une moustache et il s'appelle Hitler dedans.
C'est ça. C'est donc un film écrit et réalisé par le néo-zélandais Taika Waititi. Alors Taika Waititi, on le présente plus, hein. What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People, Wilder People, allez. Thor Ragnarok, bien évidemment, et bientôt Thor Love and Thunder. Donc c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup.
Moi
c'est
aussi.
Un film qui est basé sur le bouquin Caging Skies, qui est est d'une auteure belgo-néo-zélandaise qui s'appelle Christine Lennens. Et ça raconte l'histoire donc de Johannes alias Jojo Betzler, un gamin qui est membre des jeunesses hitlériennes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est incarné par l'excellent Roman Griffin Davis et qui découvre que sa mère, qui est incarnée pour sa part par Scarlett Johansson, cache une jeune fille juive dans son grenier. Une jeune fille qui est elle incarnée par Thomasine McKenzie. Alors forcément, ça va l'amener à se poser certaines questions existentielles, des questions dont il débat avec son ami imaginaire, qui est une version un peu barrée d'Adolf Hitler, incarné par Taika Waititi lui-même, et c'est vraiment fantastique. Alors c'est souvent drôle, c'est parfois triste, j'ai failli verser ma larme à plusieurs reprises, c'est complètement étrange, c'est touchant, c'est bref, c'est une jolie satire de la guerre et de la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec un sujet pareil, c'était pas gagné, limite il y avait que Waititi qui pouvait réussir un tel truc. Les premiers rôles sont top, mention spéciale aux enfants qui jouent vraiment remarquablement bien, mais les seconds rôles sont aussi fantastiques. Il y a notamment Sam Rockwell qui incarne un officier de l'armée allemande, Steven Merchant qui incarne un agent de la Gestapo, et Rebel Wilson qui incarne pour sa part une instructrice du camp des jeunesses hitlériennes. Le film avait été présenté en septembre dernier au 44e Festival International du Film de Toronto, où il a remporté d'ailleurs le premier prix. Il était déjà sorti depuis un petit moment aux États-Unis, puisqu'il était sorti, si je dis pas de bêtises, en octobre, et il est prévu chez nous en France à la fin du mois, donc faudra patienter encore un petit peu. Alors il y a une version pirate qui circule pour le moment, mais par pitié, allez le voir en salle, franchement il le mérite. En plus il a pas ramassé des masses de millions de dollars aux États-Unis, je crois que c'est un film qui a coûté environ 15 millions, qui a ramassé 30 millions, donc c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. Et comme personnellement des films comme ça j'en veux bien tous les jours, je suis sorti de là avec une grosse banane, hein, voilà, même s'il y a des petits moments un petit peu poignants et tristes, c'est vraiment une superbe, j'allais dire fable, je sais même pas si c'est une fable, c'est plus une satire en fait, et vraiment je suis sorti reboosté de ce film. C'est une grosse réussite pour l'ami Taika Waititi, donc je suis encore plus impatient du coup de découvrir ce qu'il va nous faire dans Love and Thunder, le quatrième opus des aventures de Thor dans le Marvel Cinematic Universe, mais ça sera pour beaucoup plus tard. Bref, Jojo Rabbit, allez-y, ça sort fin du mois donc en France, et franchement ne loupez pas ce grand moment de cinéma. On va passer du côté de la tech et on va parler du CES 2020 et plus particulièrement des horreurs du CES 2020.
Ouais, parce que nous aussi on vit des grands moments, tu vois, on n'a pas besoin d'aller au cinéma, il suffit d'ouvrir les sites de tech et tu vois des trucs où tu fais « mais pourquoi ?»
On reste dans la satire, donc.
Mais voilà, tu vois, mais pourquoi les gens? Oui, parce que le CES 2020, je vais pas vous mentir, les amis, hein, ça me fait super chier de vous expliquer que Bidule a sorti un portable machin, qu'il y a un truc gamer qui vient d'arriver, qui fait poète poète. Ça m'intéresse pas beaucoup. Alors que vous parlez avec une petite pointe d'ironie absolument pas maquillée, n'est-ce pas? De la dernière TV Cero de Samsung. Ça me fait rire. Ça me fait vibrer, tu vois. Et c'est pour ça, nous, on est là pour vous parler des trucs qui nous intéressent. Et ça m'intéresse parce que je voudrais savoir quel est le mec qui s'est dit que c'était une bonne idée et à qui ils allaient le vendre. Alors qu'est-ce que c'est que la TV Cero de Samsung? Je vous donne un indice, Cero ça veut dire vertical en coréen si j'ai bien compris, et donc c'est une télé qui, quand on connecte son téléphone dessus, va pivoter et s'orienter verticalement.
Oh mon Dieu.
Pour bien profiter de tes TikTok et de tes stories Instagram sur ta télévision, mon gars. Et ouais, on vit dans ce monde-là maintenant. C'est ça notre vie, c'est ça notre futur. Sauf si vous achetez pas cette télé, et ça je compte sur vous, n'est-ce pas? Parce que je vous donne même pas le prix, j'ai pas été le chercher. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai vu le truc, j'ai fait. Pourquoi? Bon, voilà, tu vois, je lève les bras à côté de mon micro. Je suis genre, mais les gars. Et la problématique, c'est qu'effectivement, le marché de la télé, bon bah, ça ramouille entre deux JO, tu vois, donc les mecs ou entre deux mondiales, donc de football. Et ils se sont dit, non, mais maintenant, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est regarder des stories et des machins. En fait, oui, mais alors j'ai un indice pour les gars de chez Samsung. Ils les regardent sur leur téléphone. Ben, tout le temps. Ils veulent pas les regarder sur la télé.
Ou leur tablette à la limite, mais
Bah voilà. Donc ça, mais en plus sur leur tablette ça marche pas. Déjà sur tablette c'est pas prévu pour, tu vois. Genre est-ce qu'il y a une appli Instagram sur iPad? Eh ben non. Tu vois, indice les gars, tout le monde s'en fout. Donc à raison prévue que quand tu as un téléphone Samsung, boum, tu branches, tu peux balancer sur la téloche. Les mecs ont dit techniquement ça marche super. La télé pivote de manière ouh là 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 là, Tony Stark aurait été fier. Mais ça ne sert à rien. C'est vraiment un peu le concept du CES souvent. Hein. C'est des produits, des protos, on te montre des idées, des machins. Mais en gros, ça ne sortira jamais, en vrai. Donc, c'est tous les ans pareil. C'est pas une nouveauté, mais tous les ans, j'ai mes petites perles où je me dis ah, non. Ce truc-là ne marchera jamais. Dégagez-moi cette merde. Alors, évidemment, j'en ai gardé plusieurs. J'en ai une autre qui est moins ridicule, mais on va rire quand même. Les écrans 360 Hz de Nvidia. Alors, bon, Je ne sais pas combien d'entre vous jouent déjà à 60 FPS stable sur votre machine. Et mon petit doigt me dit, et le Discord de Geekzone me dit que finalement assez peu. Pas grand monde, au final, a des cartes graphiques qui permettent de tenir des résolutions un petit peu balèzes de manière stable. Et déjà, bah, 60 c'est compliqué. 120 c'était déjà pas gagné. 240 on était déjà dans le ça ne sert à rien. Donc 360, j'aime beaucoup les, tu vois, les progrès, le progrès technologique, c'est la vie, la science, tout ça c'est beau. Mais là, on est quand même dans la zone du foutage de gueule un petit peu. Mais c'est pas grave. Asus ROG a sorti son écran Swift 360. Là où ils sont malins, c'est qu'on est sur un 24,5 pouces. Donc oui, c'est petit, mais en même temps, bah, ils sont pas complètement débiles. Ils se doutent bien que pour tenir 360 Hz, même avec la dernière carte Nvidia, tu peux pas alimenter un 27 pouces, tu vois, ça va être vite compliqué. Tu seras gentil de baisser les détails dans tes jeux aussi, quand même. Ça pourra nous aider. Donc voilà, évidemment, tout le marketing autour de cette histoire est tourné autour de l'e-sport et des 2 frames par seconde qui vont faire la différence entre un winner et un loser.
Mais bien sûr.
Donc, voilà, pour les gens normaux, je doute de l'intérêt et je doute même de l'intérêt pour un mec qui est super fort à un FPS compétitif, hein, pour être très très clair.
Y a un moment, ce serait une bonne excuse pour ceux qui perdent. En tout cas.
Voilà, mais
oui,
tu
mais
vois,
je fais pas 360 Hz, c'est pour ça.
Il y a un moment où ça se voit, tu vois. Il y a un moment où dans la tech, tu fais genre non, les gars, c'était super avant. Enfin, je sais pas, maintenant, vous pouvez commencer à attaquer pour baisser les prix ou faire un petit
par
peu
exemple.
Mieux, tu vois, des graphiquement. Non, on va vous en remettre pour des trucs qui vous servent à rien. Donc là, l'étude de marché, elle a été, à mon avis, bâclée. Ah, je pense pas qu'ils s'imaginent qu'ils vont vendre des millions. Hein. Il y a aussi un effet un petit peu concours. Tu vois, ceux d'en face le font pas.
Ouais, c'est ça.
Je ne citerai pas de nom, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais on va dire, au moins ça marche, ça existe. Et puis, si vous avez la machine suffisamment puissante pour le faire, ok, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse le bénéfice du doute. Alors que le truc dont je vais parler après, lui, on sait qu'il sert à rien. Et ça, c'est beau, tu vois. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui a été présenté? Et les TV 8K, mon Fasquil.
Ouais, je suis toujours en 1080p, moi, je suis très content. Hein, donc,
oh, oh. Alors, effectivement, déjà, le 4K a pas fini de convaincre tout le monde, loin s'en faut.
Mm-hmm, je confirme.
Donc, voilà, surtout que bah, si vous matez du Netflix, comme plein de gens, bah, la gueule des streams 4K, c'est quand même pas magique. Alors, c'est beau, hein, c'est propre, ça fait le taf, mais quand on voit la taille du fichier par rapport à ce qu'on télécharge, quand on veut télécharger du vrai 4K, je vous confirme qu'il y a des petits trucs et que c'est pas si beau que ça. Vous avez qu'à regarder les aplats noirs sur certaines séries, Game of Thrones. Ça s'était bien passé, surtout dans le dernier épisode, mais bon, eux, ils avaient été vraiment loin dans la problématique. C'est pas la faute que des 4K, on est bien d'accord, hein. Mais si je peux mettre un petit taquet au dernier épisode de Game of Thrones, moi, tu me connais. ça me fait plaisir, c'est gratuit. Non, les TV 8K, donc Samsung, toujours eux, toujours premier sur les innovations qui ne servent à rien. Ça a présenté la Q950TS, qui est donc une télé 8K pour laquelle il n'y a aucun contenu. Parce que bah, ça n'existe pas, les contenus en 8K,
bah, oui.
au jour d'aujourd'hui. Enfin, sauf si vous filmez vos propres trucs en 8K sur des caméras spécifiques, hein, peut-être que vous faites vos films de vacances en 8K parce que vous avez beaucoup d'argent. Mais sinon, bah, y a aucun contenu, donc je ne vois pas l'intérêt de la chose. En revanche, elle a un intérêt, cette télé, c'est qu'elle a aucun bord. Quand je dis aucun bord, c'est vraiment aucun bord. L'écran fait 100% de la surface de la télé. Et ça, j'avoue, ça, c'est sexy. Ça donne un super look à la télé. Alors après, pour vous démerder pour la bouger, pour faire la poussière dessus, sans mettre vos gros doigts gras dessus. Hein. De toute façon, vu le prix de la bestiole, parce que le prix est pas vraiment officiel, mais enfin, si on se réfère au prix d'autres modèles d'expo du genre, etc., on était déjà dans les 16 ou 17 000 dollars. Donc, à ce tarif-là, il y a quelqu'un qui va faire la poussière chez vous, j'imagine. Hein, vous débrouillez. Enfin, c'est pas vous qui touchez la télé.
Quand
en tout
tu
cas.
Changes de télé, quand il y a de la poussière dessus, en fait.
Je pense que c'est ça. Vous me l'enlevez. Vrai. Jarvis.
Il y a une trace là, j'en veux une autre.
Voilà, dégagez-moi cette merde. Donc, je ne suis pas... je suis toujours dubitatif sur toute cette vague de télé 8K qu'on peut nous présenter comme révolutionnaire. Autant je peux comprendre les essais de machines avec des écrans qui se plient dans tous les sens, autant là, c'est non. Ça ne marche pas. Alors évidemment, sur le CES 2020, il y a eu... une tonne d'annonces, plein de petits gadgets de présenter, etc. Mais ceux qui ont vraiment fait de la peine, ils s'appellent Intel, parce que bah, Intel, qui sont quand même censés être les maîtres du monde, hein, on se rappelle, bah, ils ont tellement été longtemps les maîtres du monde que bah, ils sont tout étonnés quand tout le monde en a plus rien à foutre de leur vie, en fait, parce qu'ils n'ont pas sorti un processeur intéressant depuis 1000 ans.
Et puis on en a parlé souvent, AMD est en bonne reprise. Là.
Ah bah, comme ils n'ont rien foutu, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? AMD, eux, ils avaient faim, ils étaient en train de crever, ils ont travaillé comme des fous. Ah bah, ils ont rattrapé leurs 5-6 ans de retard et maintenant ils sont passés largement devant, surtout en multi, sur les multicores. Mm. Et puis, bah, même sur les trucs en single core, on a vu les derniers tests, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, si vous montez une machine en 2020, il y aura très certainement de l'AMD dedans. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recommande actuellement et je vois les gens qui fonctionnent sur, qui sont en train de changer de config sur Geekzone, c'est de l'AMD à tous les étages. Hein. Mm. Donc, du coup, ils ont essayé de faire un peu de bruit en présentant le Thunderbolt 4, donc en disant oui, on a une nouvelle norme qui va arriver, ça va être génial et tout. Il n'y avait aucune info. Quand je te dis aucune info, c'est le mec, il est arrivé, il a agité les bras, il a fait ouais, ça va arriver, ça va aller super vite. Et après, quand les mecs ont fait, on aurait des docs sinon.
Des Jedi Mind Tricks.
C'est ça. Mais, et sinon, eh ben, non, mais ça va arriver, vous bougez pas. C'est, on va vous
mais
faire.
Mais ça va être génial.
Bah, c'est un truc de dingue. Donc, il y a vraiment aucune spécification concrète, de ouf. Alors, il y a une plaquette marketing qui t'explique que ça va aller X fois plus vite et tout. Mais j'ai trouvé la blague rigolote. Donc, on va attendre pour reparler de ça, mais ça me faisait marrer de leur mettre un petit tacle. Mm-hmm. Et puis, on va aussi, derrière, vous linker un petit thread qui est justement rigolo, de notre ami Dr. Terabul, l'ex-patron de CPC Hardware, qui a fait un thread un peu vidage de sac, tu vois, tu sentais qu'il y avait un bouton purulent qu'il fallait évacuer, et qui évidemment fait la part belle à l'œuvre d'une vie de Brian Krasnitch. Je n'arrive jamais à dire son nom. Hein.
Krasnitch, mais je voulais te laisser le prononcer et en fait, je vois que tu t'en sors pas mieux que moi. Donc,
non, c'est une horreur. Donc, c'est le patron d'Intel actuel, hein, qui est un mec qui a fait sa carrière à la base, je crois qu'il gérait une usine. Enfin bon, c'était pas un ingénieur de ouf. Tu vois, le mec, il a pas une carrière incroyable de, derrière lui. Et bah, il a rien fait à part virer des gens. Donc, forcément, Intel, pendant 10 ans, a gagné plein de pognon puisqu'ils ont continué à vendre des produits qui étaient leaders du marché sans faire de dépenses en R&D. Sauf qu'en tech, au bout d'un moment, cette stratégie, elle a un problème. C'est que t'as plus rien à vendre. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que le thread de Monsieur Terabul est assez rigolo et que ça me faisait plaisir de vous le linker. Je vous l'ai mis dans Thread Reader pour que ça soit un peu plus agréable à lire. Parce que Twitter, la gestion des threads, c'est variable.
C'est pas ça, ouais.
Voilà. Donc là, au moins, vous pourrez déguster ça tranquillement dans le billet qui accompagne le podcast.
Allez, pour bien commencer l'année 2020, on va clôturer ce 115e Torréfaction avec un rant de Jean-Pierre Caff.
Ouais. On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Allez, on n'a pas tapé encore assez fort dessus aujourd'hui, on va reparler de nos amis de Samsung.
Ah là là, mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je les aime bien, tu vois, ça me fait du mal de leur taper dessus, mais tu vois, quand ils font des trucs...
Ils cherchent.
Si Apple ou si n'importe quel... Enfin, tu vois, c'est souvent, si Apple l'avait fait à leur place, il y aurait 12 procès, tout le monde se foutrait de leur gueule. Samsung, tu les regardes un peu de biais et tu fais genre, non, mais bichounet, fallait pas faire ça quand même. Donc là, la dernière blague, c'est que justement, pendant le CES, ils ont présenté leur nouveauté, il y avait un truc dans le tas qui s'appelait le Samsung Pass, et pendant qu'ils présentent le Samsung Pass, il y a un pauvre designer chez eux qui a pas eu le temps de finir sa presse, et du coup, pour montrer qu'ils avaient aussi la reconnaissance faciale, et ben, il a carrément mis l'icône de Face ID dans la présentation qui est apparue sur l'écran géant derrière le mec qui était sur scène. Okay. Mais voilà, tu vois, tu te dis, c'est pas une version à la Xiaomi, genre, on a copié puis on a essayé de changer un trait, parce que déjà, eux, c'est du foutage de gueule, mais... tout le temps. On est habitué, c'est triste, mais c'est comme ça. Et Samsung, ils essayent, tu vois, d'avoir leur propre truc, même si c'est obviously repompé. Mais là, c'était vraiment le même. Donc, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et je fais genre, mais putain, les gars, faites un effort, quoi. Enfin, tu vois, Samsung, c'est pas une PME. Ils ont 2-3 mecs, normalement, pour s'occuper de ça, tu vois. Donc là, c'est vraiment le même qui est inratable, puisqu'en plus, il y a une histoire sur cette icône qui est inspirée. L'icône de Face ID est inspirée de l'icône des premiers Mac. C'est pour ça que le nez a cette gueule-là, etc. Enfin, bon, bref, tu peux pas le copier par hasard, tu vois. Donc, les mecs, non, celui-là, on vous a vu. Cette fois, on vous a vu. Déjà, votre truc pour l'empreinte digitale, bon, c'est l'empreinte digitale. Alors, bon, vous, d'accord, Touch ID, votre truc, ok, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, ça va se voir. Donc là, là sur celui-là, ils se sont fait taper dessus par tout le monde s'est un peu foutu de leur gueule. Et je te confirme que c'était bien mérité. Et pour avoir un S10 Plus de Samsung pour le boulot depuis un petit moment, comment vous dire Voilà, je me lancez pas trop sur les trucs Android ou Samsung en ce moment parce que je suis chaud et j'utilise tous les jours et mon
et tu souffres.
Je sais pas vraiment que je souffre, c'est que mon dossier de ah ça aussi ça marche pas très bien grossit en permanence et c'est un petit peu pénible. Alors c'est, tu vois, je suis absolument pas en train de dire Apple c'est mieux tout le temps. Non non, je sais, je connais les problèmes de prix, je connais les problèmes d'iOS. Je souffre sur les depuis les premières bêtas d'iOS 13, je suis le premier à avoir tapé dessus. Mais quand vous dites non, cette plateforme n'est pas bien, venez avec des arguments les gars parce que là je suis chaud. Là, je suis chaud et je pense qu'en 2020, je vais être chaud toute l'année. Donc voilà, je vous rappelle, en ce moment, il y a des fuites chez moi, ça me met pas de bonne humeur. Vous allez voir, on va rigoler. On a repris les podcasts là maintenant ça va dérouler toute l'année.
Et c'est la fin de ce 115e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Eh bien, je vais te laisser aller réparer tes fuites et écoper l'eau qui stagne dans ta salle de bain.
Non, ce n'est pas mon travail. Je n'irai pas. Alors oui, vous voulez pas me voir bricoler, en revanche, ça c'est un autre problème. On va trouver des solutions.
Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end, ciao.
Bon week-end, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.